Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Hallo du monde.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Éducation. Dans quelles conditions se tiennent les examens du CAP au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Démarrage des examens du CAP ce lundi 26 juillet à travers le pays. Il commence dans un contexte où les enseignants signataires du 15 octobre 2016 annoncent un boycott des examens et une grève à partir du 9 août prochain. Quelle solution pour la suite de l'année scolaire? À quoi faut-il s'attendre? Où se situent les négociations entre le gouvernement et les enseignants? Pour en parler, nous avons invité Monsieur Ousmane Almoudou, secrétaire général des enseignants signataires du 15 octobre. Monsieur Almoudou, bonsoir. Nous avons Daouda Sako au téléphone. Il est membre de l'association des parents d'élèves. Monsieur Sako, bonsoir. Boubacar Garba, porte-parole de l'association des élèves et étudiants du Mali, AEM, est sur le plateau avec nous. Bonsoir, Monsieur Garba.
Bonsoir.
Nous avons tenté d'avoir un représentant du gouvernement sur le plateau, mais nos tentatives sont restées vaines. À la présentation, Mariam Koulibaly. Mais néanmoins, le débat, ça continue. Restez avec nous.
Le Grand Dialogue.
Alors, Monsieur Sako, comment vous appréciez la situation scolaire aujourd'hui?
Ce matin, quand même, il y avait une délégation importante à Kati, dont la Fédération de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Mali fait partie, pour l'ouverture solennelle de l'enveloppe du CAP, et qui m'a donné une très bonne impression, tant par l'organisation et qui était en place, parce que les élèves et les candidats étaient en place, bien installés, les salles étaient en état acceptable, avec les surveillants en place aussi, et tout était prêt pour que ça commence, ça démarre très bien. Donc, Madame le ministre a ouvert ma première enveloppe, et je crois que c'était pour le lancement officiel des épreuves du CAP à l'Académie de Kati.
Monsieur Ousmane,
c'est bien passé.
Ok. Monsieur Ousmane Almoudou, est-ce que vous avez le même regard de la situation que Monsieur Sako? Comment est-ce que vous appréciez cette situation?
Non, en fait, merci. Je voudrais préciser quand même, je ne suis pas le secrétaire général, je suis le porte-parole du syndicat de l'éducation.
C'est noté.
Ça a son importance dans notre milieu.
Oui.
Et dire que ce que Monsieur Sako vient de dire, ce n'est pas étonnant. Au Mali, on aime la façade, on aime masquer. Sachant bien que la première enveloppe sera ouverte au niveau de Kati. On masque les choses, on prend des dispositions pour que ça soit. En tout état de cause, nous, syndicats de l'éducation, nous n'avons pas participé. Le gouvernement s'est débrouillé à recruter des gens n'importe où pour aller surveiller. Ce qui démontre la nature du gouvernement vis-à-vis de l'école.
Mais sur quoi vous vous basez pour dire que les
gens...
En
fait, nous avons fait la citation, nous avons nos représentants un peu partout. À partir de 11h, nous avons fait la citation. Aucun enseignant du public n'a participé. Ils ont pris des enseignants du privé, ils ont recruté des gens par-ci, par-là. On a des localités où ils ont recruté des conseillers qui sont au niveau du gouvernorat pour aller surveiller. On verra s'ils feront le même cas lorsqu'on va attendre le bac. On verra s'ils feront la même chose lorsque nous irons au niveau de DEF. Donc cette présentation harmonieuse, etc., pour nous, c'est de la façade. C'est la façade parce qu'on sait que à partir du moment qu'on veut faire fonctionner l'école sans les enseignants qui, pendant toute l'année scolaire, ont fait cet exercice-là, ça nous donne l'idée de ce que ce gouvernement, le département de l'éducation, le gouvernement dans son ensemble, l'école ne le dit absolument rien. Ça, je pense que j'ai eu l'occasion de vous le dire sur ce plateau-là. On revient là-dessus. L'école, c'est la dernière des priorités de ce gouvernement-là. Et en ce moment, nous sommes aussi, en tant que syndicat de l'éducation, nous assumons entièrement sur toutes les dispositions que nous avons entreprises.
Alors, Monsieur Garba, vous êtes membre de l'AEM. Au vu de la situation et tout ce que vous venez d'entendre, est-ce que l'AEM est inquiet aujourd'hui?
Merci bien. Bonjour, chers téléspectateurs, chers camarades. Bon, aujourd'hui, nous sommes plus qu'inquiets. En tant que partenaire indéfectible de l'école, qui est aussi de la communauté éducative, y compris les enseignants, les administrateurs. Aujourd'hui, les activités d'examen de fin d'année font partie aussi des activités pédagogiques qui doit être suivi, corrigé par ces mêmes enseignants qui ont l'éthique et la déontologie de la matière. Aujourd'hui, les deux parties doivent prendre en toute intelligence, en toute responsabilité pour vraiment pallier à ce problème. Ce que nous déplorons vraiment, ça c'est annuellement des années sauvées à tout prix. Car on a l'adage de dire que pousse-pousse s'arrête au mur. La synergie et d'autres entités syndicales plus le gouvernement ne doit pas en réalité marcher sur l'avenir de nos camarades, l'avenir de nos petits frères qui sautent d'étape en étape pour arriver à un seuil dont ils n'ont pas le niveau. L'éducation, c'est l'arme fatale pour changer un pays. L'avenir, le devenir d'une nation repose sur les principes de l'éducation qui est aujourd'hui très bafoué. Nous sommes inquiets, très inquiets même face à la situation.
Monsieur Sarko, vous de l'association des parents d'élèves, Monsieur Almoudou vient de dire que des enseignants ont été recrutés un peu partout pour venir surveiller l'examen du CAP au niveau des différentes écoles. Est-ce que vous avez eu vent de la situation? Pensez-vous que c'est possible de faire fonctionner maintenant l'école sans les enseignants?
Bon, il n'est pas possible de faire fonctionner l'école sans les enseignants, mais si je me porte en foi à ce que Aboulou dit, parce que vous savez, les IFM, l'IFM Kadekati était en évaluation aussi. Mais dans les salles de classe, c'était les enseignants de l'IFM qui surveillaient les épreuves. Donc, dire que ben, on a recruté les enseignants n'importe où, n'importe comment, en tout cas, ça, je ne suis pas d'accord avec lui. À l'IFM de Kati, les épreuves étaient surveillées par des enseignants. Donc, je connais beaucoup, parce que, comme vous le dites, j'ai été inspecteur général en éducation nationale et j'ai formé des professeurs à l'INSIP et je suis capable d'y enseigner. Donc, j'ai vu mes anciens étudiants qui sont professeurs à l'IFM qui surveillaient ces épreuves et qui sont des agents de l'État et sont professeurs à des classes. Bon. C'est une situation qui n'est pas plaisante. Parce que nous, en tant que parents d'élèves, nous ne pouvons pas supporter que nos enfants soient abandonnés à la porte des examens par des enseignants, par l'État ou par les enseignants. Nous ne pouvons pas supporter que nos enfants qui ont suivi des cours pendant des mois, maintenant qu'ils sont à la porte des examens, qu'ils soient abandonnés. Ça, en tant que parents d'élèves, nous ne pouvons pas le supporter, nous ne pouvons pas le cautionner.
Monsieur Almoudou.
Et comment, en tant qu'enseignant, les élèves que vous avez formés pendant des mois, maintenant vous avez clôturé l'année, il suffit maintenant de faire l'examen. Il y a des pressions, il y a des menaces sur cet examen. Je trouve que vraiment, en tant qu'enseignant, soit nos collègues, le minimum, c'est de faire sourire quand même les élèves pour que vraiment ils puissent faire leur examen. Le reste, on pourra peut-être le traiter de façon beaucoup plus durable. C'est ce que nous pensons, parce que vraiment, perdre l'année, c'est un peu comme l'année que notre école est dans cet état.
Alors, monsieur, dans
un pays, quand l'école ne marche pas, on ne doit même pas vous apporter une aide, parce que vous avez renoncé au développement. Vous avez renoncé au programme. L'école, c'est l'ossature de toute société. Quand l'école va, tout va. Mais quand l'école va mal, rien ne va.
Rien ne va. Aujourd'hui, est-ce que les directions des différents établissements ont déjà reçu les notes?
Il y a deux, trois choses que je veux préciser.
Oui.
Le professeur dit que l'IFM de Kangaba, l'IFM de Kati en évaluation, ce n'est pas seulement l'IFM de Kati, c'est l'ensemble des IFM du Mali. Là, ce n'est pas des examens, c'est des trimestres. Et là, on n'a pas demandé de boycotter les trimestres. On a demandé de faire les trimestres et de retenir les notes. C'est pourquoi nos collègues sont en train de surveiller. On leur a dit de surveiller aujourd'hui, ils vont surveiller aujourd'hui. Demain, nous sommes en assemblée générale, ils ne vont pas surveiller. Les jurys, nous sommes en meeting, ils ne vont pas surveiller. Mais aujourd'ui, ils sont en train de surveiller parce qu'on n'a pas demandé de boycotter les actions en cours. Donc, on n'a pas demandé de boycotter les trimestres. Et les IFM sont en trimestre. Mais je précise, je mets quiconque au défi de nous amener des enseignants du public qu'on surveille ce cap. Quiconque au défi. Ils ont ramassé des gens n'importe où pour les amener. Et c'est dit, ça nous donne l'état d'âme, l'idée de ce gouvernement par rapport à l'éducation. Deux, les camarades de l'AIM disent que la synergie ne peut pas prendre l'avenir des enfants. Ce n'est pas la synergie. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que les Maliens et les Maliennes comprennent que les enseignants ne peuvent pas rester dans cette situation. Tant qu'on ne comprendra pas ça, ça ne va pas marcher. Les enseignants ne vont plus accepter qu'ils soient traités comme les derniers de la société. Les enseignants ne sont plus acceptés à être traités comme les misérables de la République. Tant que la société ne change pas cette mentalité, ça ne pourra pas marcher. Les professeurs qui viennent de lire nous ont donné beaucoup de leçons de ce qu'ils ont fait, etc. Nous ne sommes plus dans ça aujourd'hui. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde. Si les autorités... C'est de la rhétorique aujourd'hui, de dire que l'école, c'est la priorité. Oui, c'est important. Les pays qui ont pris conscience de ça ont mis leur école en valeur, ont mis leurs enseignants en valeur. Au Mali, on chante ça. Tous ceux qui sont en train de parler de l'école aujourd'hui n'ont pas leurs enfants dans les écoles publiques. Tous ceux-ci n'ont pas leurs enfants. Vous les prenez des hauts jusqu'au bas. Les derniers directeurs d'école, les directeurs nationaux n'ont pas leurs enfants dans les publics. Et si vous venez me parler de la rhétorique sans l'école, il n'y a pas de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent cela. En tout état de cause, les syndicats de l'éducation sont conscients de leurs responsabilités. Les syndicats de l'éducation se préparent pour que ce corps-là meurtri, que les gens ne veulent pas avoir, les enseignants du Mali, obtenir du bonheur pour que cette situation change. Si on veut ensemble que notre école sorte de cette situation, on veut ensemble que notre école retrouve son lieu d'antan, je pense qu'il va falloir qu'on s'assied et qu'on mette les enseignants dans leurs droits. Ce que les enseignants demandent aujourd'hui, ce n'est pas de la mer à boire. Les enseignants demandent l'application d'une loi de la République. Tout simplement. On ne peut pas accepter ça pour les autres. Et certains sont partis en mouvement de grève. Ils ne sont pas aussi nombreux que les enseignants. On n'a pas trouvé des alternatives pour les remplacer à leur poste. C'est parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont en grève. On recrute des gens par-ci, par-là pour qu'on va les remplacer. Ça veut dire que ça ne dit absolument rien. Que l'examen se tienne ou pas là. Pour ces autorités, ça ne dit absolument rien. Et si les autorités qui sont censées garantir le droit de tout un chacun, et les élèves et les enseignants s'en fichent des examens, les enseignants aussi s'en fichent.
Parlant de vos actions en cours, est-ce que les directions des différents établissements ont déjà reçu les notes des élèves?
Nous, on a retenu, on a dit depuis le 1er juillet, aux camarades, aux collègues, de retenir les notes des trimestres, des interrogations, des devoirs. Aujourd'hui, non, non, pas. En tout cas, à partir du 1er juillet, où on a pris la décision jusqu'à aujourd'hui, aucun collègue n'a remis une note à une administration. Bon, vous savez, dans ce pays-là, on est habité à ça. On invente des notes pour donner ça aux collègues. Ça, ce n'est pas une première fois. Et on fait ce référence des années. Les administrations, on demande à l'élève, toi-même, vous avez fait un devoir là, une fois, tu as eu combien dans ce devoir là? L'élève peut imaginer dire que j'ai eu 17, on écrit ça. Ce n'est pas une première fois. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, depuis qu'on a pris la décision, nos collègues n'ont pas remis de notes. De copies. Moi, je me copie avec moi. J'ai corrigé, les notes sont avec moi.
Monsieur Garba, vous de l'AIM, pensez-vous que cette situation-là joue sur le moral des candidats?
Oui, effectivement, ça joue beaucoup. Et aujourd'hui, en réalité, le bureau de coordination est dans un rôle d'impartialité. Mais quoi qu'il en soit, pour l'avenir de l'école, pour l'avenir de nos camarades, nous sortirons en réalité très bientôt dans cette optique d'impartialité. À travers vraiment des mesures. Aujourd'hui, que ce soit l'État, les autres entités syndicales, quel qu'en soit leur statut général, statut particulier, aujourd'hui, je n'en disconviens pas avec la synergie, car on dit que l'État est une continuité. Ces mêmes autorités aujourd'hui en place, c'est eux qui avaient trouvé au début de leur prise des affaires, des conventions avec ses anciens. Je n'en disconviens pas que l'État est aujourd'hui dans une impasse dont la synergie aussi doit prendre conscience. L'État devait en toute responsabilité regrouper, que ce soit l'INTEM, les avocats, les médecins, les anciens, tout le monde avant vraiment leur projet de grille unifiée. D'édifier tout un chacun
en les mettant à leur place. Ça va jouer sur le moral des
tout
enfants.
Tout ça, là, oui, je viens. Tout ça, ça va jouer car ça devient intempestif. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, ça ne va pas. Les années ne sont même pas achevées. Les candidats partent en salle d'examen tout confus et un mois, deux mois avant ces examens, il y a une incertitude si ça aura lieu ou pas. Et même ces examens aussi, ce n'est pas national sur toute l'étendue du territoire, que ce soit au centre ou au nord. Nous aussi, nous demandons l'école pour tous. L'État est là pour garantir le droit de tout un chacun. Il n'y a pas d'école dans toutes les régions, dans toutes les cercles du Mali, dû à l'insécurité, dû à l'absence des enseignants, dû à l'absence des autorités administratives. Que deviennent aujourd'hui nos frères et sœurs qui n'ont pas droit à l'école? Leur avenir est bafoué. Même ceux qui sont au sud ici, dont les anciens refusent en réalité de rentrer en classe, ils n'auront pas de niveau. Et une année, deux ans, ces mêmes enfants des riches, quand on nous mettra au défi d'intellectualité face à eux, bien sûr qu'ils vont damer, car ils n'ont pas étudié au Mali. Nous voulons en réalité que l'école malienne d'aujourd'hui devienne comme l'école malienne de la Première République. Et ce n'est pas sorcier. À travers des réformes institutionnelles dont le Premier ministre vraiment en a envie de faire, aujourd'hui nous devons faire une réforme sectorielle de l'éducation pour vraiment puiser dans le plus profond du problème. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas résoudre les problèmes à la façade pour que chaque année, nous devions danser le même rythme. Rentrer, ne rentrer pas, faire intervenir d'autres acteurs là-dedans. Nous devons résoudre le problème de façon définitive pour que les années soient normales, que nos camarades aient des années pédagogiques ou universitaires vraiment anormales pour qu'ils puissent avoir le niveau requis, une bonne formation pour devenir des bons cadres demain.
Monsieur Daouda Sakho, des années sauvées par justesse. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Quelle est la solution à trouver pour mettre fin à tous ces problèmes?
Dans ce temps, il faudrait qu'il y ait une stabilité durable, définitive au niveau de l'espace scolaire. C'est incontournable, et puis des enseignements de qualité. Et moi, comme je vous le dis, il y a une petite histoire. Moi, j'ai commencé à enseigner au lycée en 78. Jusqu'à aujourd'hui, je continue d'enseigner, mais je ne regrette pas d'avoir été enseignant. Et j'ai tout le respect que je mérite. Ce que je veux dire aux enseignants, c'est que il faut se valoriser soi-même. Il ne faut pas penser que quelqu'un d'autre viendra vous valoriser, non. C'est l'enseignant qui se valorise soi-même par la qualité de son enseignement, par l'amour qu'il a pour l'élève, par l'amour qu'il a pour son métier, pour l'amour qu'il a pour son pays. Mais nous, quand nous commencions à enseigner, on avait 35 000 francs CFA, 70 000 francs maliens. Mais eux, ils profitent de quelque chose que nous avons commencé, mais nous n'avons pas eu. Mais malgré tout, mais nous sommes heureux qu'il y ait des aménagements ou qu'il y ait des améliorations des conditions de vie des enseignants. Ça, c'est quelque chose que nous souhaitons. Mais il faut se dire que l'école a fait un long chemin et le professeur, l'enseignant a fait un long chemin. Il faudrait qu'on se le dise. L'enseignant se valorise soi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre un grand boubou et le mettre à l'enseignant. Il va dire, ah, vraiment, tu es bien joli, tu es bien repassé. Non. Il faut qu'il le cherche, qu'il le mérite. Et c'est ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'enfant, l'élève, il est irremplaçable. C'est l'élément incontournable pour le développement de toute société. Quand il n'y a pas d'école, vous voyez, et bien, allez au marché. Ce sont des élèves qui sont des cireurs, ou des filles qui sont des vendeurs, des vendeuses d'eau glacée ou de glace. Mais ce sont des élèves qui sont maintenant dans la rue. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des délinquants. Et là, tout le monde, personne ne sera sauvé. Même nous, les anciens, nous ne serons pas sauvés quand ces gens-là, ils deviendront des délinquants de la société. Qui va se sauver? C'est pourquoi je dis que l'enseignant, il ne faut pas se leurrer. Personne ne peut payer la sueur de l'enseignant. Parce que l'enseignant, lui, il forme l'être humain. Il l'aide à être et utile à lui-même et utile à sa société. Mais C'est pas l'argent qui peut permettre de payer tout ça.
Donc,
la place de l'ancien dans la société est incontournable. Ils doivent le savoir que c'était un métier aussi de sacrifice. C'était un métier de sacrifice. Si je prends les exemples, nous, quand nous surveillons le bac, les années 68, où il n'y avait pas de prime d'indemnité de surveillance du bac. Et puis, on dit qu'on ne peut pas faire le bac sans les enseignants. Je le reconnais, mais il n'est pas dit que tous les enseignants aussi sont bons comme surveillants. Hein. J'ai été président des centres d'examen et autres pendant près de 15 ans. J'ai eu à renvoyer des enseignants dans des salles de classe. Et pas un ou deux, mais plusieurs pour mauvais comportement. En tant qu'inspecteur et inspecteur général, étant président de centre d'examen. Donc tout n'est pas rose dans notre maison, mais nous souhaitons quand même que vraiment l'enseignant et se soucie quand même encore un peu plus de l'avenir des enfants dont il a la charge. Ça, c'est incontournable.
Merci, M. Sako. M. Almoudou, vous voulez réagir face aux propos de M. Daouda Sako?
Non, pas réagir, dire seulement que il est toujours bon d'écouter l'histoire quand, parce que chaque fois qu'on a l'occasion de les rencontrer quand même, ils nous rappellent l'histoire de ce qu'ils ont vécu en tant qu'enseignants. Et j'estime que nous aussi, nous avons accepté de consentir les mêmes souffrances. Et malheureusement, nous ne sommes pas prêts à ça. Et j'ai l'habitude de leur dire le kilo de riz est vendu au même prix à l'enseignant aux autres fonctionnaires sur le marché. De faire des sacrifices, je ne pense pas s'il y a un corps au Mali aujourd'hui qui consent de sacrifier plus que l'enseignant. Il y a des villages, il y a des localités aujourd'hui, il n'y a aucun responsable si ce n'est pas l'enseignant. Des villages où l'école est en train de fonctionner. Il n'y a aucune autre autorité là-bas. Les enseignants sont là-bas. Nous avons l'habitude de les rappeler. Nous avons, depuis le 19 décembre 2019, notre camarade Saïbou Togo est en détention. Personne n'a jamais prononcé un seul mot. Et pourtant, c'est un enseignant. Qui pourra rendre service à traverser Tenenku? Il a été arrêté, appréhendé par les djihadistes. Il est encore en détention. On ne peut pas demander aux enseignants de faire des sacs plus que ça. Peu plus que ça. Les enseignants du Mali ne demandent qu'à avoir les meilleurs conditions leur permettant d'exercer leurs fonctions. Et sacrifice, je pense que je peux demander aux professeurs d'aller se renseigner auprès des administrations scolaires, les directions, malgré que nous sommes rentrés en retard cette année. L'effort que les enseignants ont consenti pour rattraper le programme. Je pense que même ceux-là qui n'aiment pas les enseignants, ils reconnaissent ça aujourd'hui. Nous avons d'abord écrit au ministre de l'Éducation à son temps pour lui dire la date du 25, il ne faut pas reporter ça. Et ensuite, les enseignants se sont donnés. S'ils font les examens aujourd'hui, c'est parce que le programme, les gens sont avancés dans le programme. C'est un effort que les gens ont consenti. Certains ont accepté de prendre des heures au-delà des heures normales qui leur reviennent. Moi, je suis avec des collègues qui sont en train de faire 48 heures de cours par semaine. Ça les fait 3 ans, ils n'ont jamais reçu les heures supplémentaires. Et pourtant, dans l'administration, les gens, chaque mois, ils perçoivent leurs heures supplémentaires. Pourquoi on ne peut pas demander à ces gens-là de faire des sacrifices? C'est seulement à l'enseignant, chaque fois à l'enseignant, de faire des sacrifices. Les sacrifices, nous sommes en train de faire tous les jours. Mais de là à aller nous piétiner, de là à aller jusqu'à vouloir faire de l'enseignant ce tapis-là sur lequel tout le monde doit marcher, les enseignants de Mali aujourd'hui ne sont pas disposés à ça.
Nous allons
utiliser tous les moyens locaux pour que nous soyons entendus. Et nous, c'est ça la valorisation aussi de l'enseignant. Je ne dis pas que tout le monde est bon. Et tous les fonctionnaires ne sont pas bons. Tous les journalistes ne sont pas de bons journalistes. Tous les juges ne sont pas de bons juges. Donc on ne peut pas étiqueter ça à l'enseignant. Dans tout corps, il y a des mauvais grains. Donc on ne peut pas prendre ces éléments-là et l'extrapoler pour prendre tous les enseignants dans cette étiquette-là. Il n'y a pas de négociation. J'ai dit, je pense que la dernière fois quand j'ai quitté ici, je vous disais que ce qu'adviendra de l'école ne dit absolument rien à ce gouvernement. Depuis que ce soir a commencé, il n'y a jamais eu de négociation avec le gouvernement. Ce n'est que le jeudi passé que nous avons été invités par les ministres du Travail et de la Fonction publique pour une rencontre d'échange. Ce n'est pas de négociation, c'est une rencontre d'échange. Au cours de laquelle, il n'y avait aucune proposition du gouvernement. contrairement à une autre technique qu'on a vue sur les réseaux sociaux, qui ne reflète pas l'état de la région. Et ça, c'est ça qui fait aussi les déficits, le mal dans ce pays-là. On cherche toujours à faire une communication qui consiste, et au lieu de chercher la solution, on cherche à diviser les gens. La note technique du ministre fait semblant comme s'il y avait des propositions. Il n'y a pas de propositions. Quand vous partez, des gens qui ont des revendications, qui ont initié des actions, vous partez les voir pour les dire, aller les expliquer la grille unifiée. Vous pensez que nous sommes syndicats de l'éducation, nous sommes plus de 80 000 enseignants, vous pensez qu'une telle grille peut sortir et que nous on regarde ça comme ça? Nous on a fini avec nos analystes pour cette question. Comment est-ce qu'on va nous rencontrer pour nous dire, nous expliquer l'avantage de la grille? On a fini avec ça là. Nous, on a fini avec cette analyse-là. Et allez nous demander de suspendre nos actions en attendant que nous nous convenions sur un calendrier de travail, etc. Nous ne sommes pas dans ça. Nous avons besoin de propositions concrètes que nous allons analyser pour qu'on sorte de la question. Toute autre proposition, et ça, on a dit ça, au ministre du Travail et de la Fonction publique, toute proposition aujourd'hui, en dehors de l'application de la loi, n'est pas la bienvenue au niveau des syndicats de l'éducation. Je pense qu'il faut que dans ce pays, que nous acceptons ça. Sans ça, il n'y a pas de pays. Sans ça, il n'y a pas de pays. Parce que tous ceux-là qui sont en train de prendre des décisions, là, ils l'ont pris au nom des textes de la République, au nom des lois de la République. Pourquoi on ne veut pas appliquer une loi de la République? Parce que ça accorde des avantages aux enseignants et que les enseignants n'ont pas droit à ça. C'est ça le problème dans ce pays-là.
Vous suivez le débat de Studio Tamani. Le thème d'aujourd'hui est éducation. Dans quelles conditions se tiennent les examens du CAP au Mali? Le vendredi dernier, le Parlement des enfants a remis une déclaration aux autorités du pays. Issa Togola était sur place. Il a fait un reportage pour nous. Écoutons.
Face à cette nouvelle menace de grève des enseignants qui plane sur l'année scolaire, les enfants expriment leurs inquiétudes. Lors de cette conférence, ils ont interpellé les différents acteurs de l'éducation. Noam Sherif Aïdara, porte-parole du Parlement des enfants.
C'est une violation flagrante des droits des enfants. Si les enfants ne sont pas éduqués, qui seront les dirigeants de demain? Et si les enfants ne vont pas à l'école, cela ferait d'eux des gens en proie à la délinquance, à la violence qui se retrouveraient dans les rues les jours à venir.
À la suite de ce point de presse, les enfants se sont rendus à la maison des enseignants pour remettre une déclaration aux enseignants. Ces derniers se disent conscients de la situation, mais affirment que la responsabilité incombe à l'État. Ousmane Al-Moud, enseignant.
Nous, syndicat de l'éducation, notre sujet n'est pas de leur faire mal. Aujourd'hui, la situation qui nous est imposée, c'est le gouvernement qui l'a fait. Et il revient au gouvernement de trouver la solution et de garantir les droits de tout un chacun. À la fois garantir les droits des enfants à l'éducation, mais aussi de garantir les droits des enfants qui n'est autre qu'une application d'une loi de la République.
Une copie de cette déclaration devrait être rendu au Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Les enfants ont annoncé entreprendre prochainement de nouvelles actions jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.
Monsieur Boubacar Garba de l'AIM, vous venez d'écouter vos petits frères du Parlement des enfants. Pensez-vous qu'ils ont raison?
Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Aujourd'hui, l'avenir vraiment de cette nation est en train d'être hypothéqué. Certes, je n'en discutais pas avec M. Sako aussi. Au Mali, il y a un problème d'éthique et de déontologie dans plusieurs corps au Mali. Et il y va aussi de la responsabilité de l'État à travers des programmes de citoyenneté et de civisme pour vraiment cadrer des bons cadres de demain. Aujourd'hui, certes, c'est déplorable aussi. La plupart des membres de FENAPEM sont pratiquement tous des anciens. Ils ont traversé par ces boulots. Nous ne sommes pas contre que les anciens soient mis dans leurs droits. Le Mali de 2021 et le Mali de 1970 est catégoriquement différent. Nous sommes dans un monde de mondialisation. Nous sommes dans une communauté de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes vraiment dans un monde maintenant de coopération et de mondialisation, dont vraiment tout est connecté à travers aussi des conventions. Les anciens de cette sous-région, la synergie du Mali, ils se comparent à certains pays de la sous-région, malgré que comparaison n'est pas raison. Mais même si l'État n'arrive pas à les mettre au même niveau de conditions par rapport aux autres membres de la sous-région, ils doivent essayer. Essayer, c'est à travers aussi des bonnes actions, de bonne foi, avec aussi des volontés et une bonne stratégie, c'est-à-dire de bonnes méthodologies. Moi, je pense que cette situation d'article 39 qui date bientôt de 2 ans, L'État ne devait pas amener cette situation de grille unifiée sans pourtant vraiment trouver à la base d'abord avec toutes les entités qui regroupent ces grilles unifiées pour vraiment essayer d'éviter d'autres représailles venant, que ce soit des synergies, que ce soit d'autres corps. Car aujourd'hui, on a l'habitude de voir tous les corps professionnels du Mali partent en grève. Mais l'État est paralysé.
Déjà, la situation est là. Est-ce que l'AIM a tenté une conciliation entre le gouvernement et les autorités et les enseignants?
Je me souviens, quand on essayait de sauver l'année scolaire 2019-2020, le bureau de coordination, en ce temps à sa tête Moussa Niagali, nous avons voulu participer à la commission de conciliation. Mais l'État n'a pas voulu qu'on y participe. Nous ne devons pas pouvoir vraiment de les concilier. Mais ce dont vraiment nous avons pouvoir, ça, c'est mettre la pression à travers aussi des moyens légaux pour que ces deux parties ou ces différentes parties puissent en réalité se mettre d'accord. À travers aussi, nous aussi, qui sont des victimes de la situation.
Quels sont ces moyens légaux
pour nous. Mm-hmm. Ça va venir bientôt. Car nous aussi, nous ne pouvons pas permettre en réalité chaque année ces mouvements en réalité qui gangrènent du népotisme, qui gangrènent vraiment ce qu'on appelle des déficits intellectuels. Imagine cette année, dans les conditions où ces fut commencé, normalement, ça ne devait pas terminer aussi de cette manière. Et imaginez pour l'année prochaine encore, si les enseignants décident de ne plus rentrer, de retenir leurs notes, de boycotter, à quand il y aura vraiment des tables de négociation? À quand en réalité il y aura un nouveau système éducatif? À quand en réalité il y aura l'école pour tous? À quand en réalité chaque fois les différents corps ne pourront plus s'élever pour que ce soit des problèmes financiers. Car tous ces problèmes, que ce soit les différents corps, qu'ils ne s'élèvent que pour soit les aires supplémentaires, des subventions, des indemnités. Et on si va, nous aussi, membres du bureau de coordination, nous nous levons pour nos trousseaux et nos bourses, on nous supplie de rentrer. Et on ne nous donne rien. Alors que ça nous sert aussi d'étudier, d'acquérir le savoir. On ne doit pas nous oublier aussi tout le temps dans le sens. Et ce n'est pas les trousseaux, les bourses aussi qui font l'école en réalité. Les moyens requis.
On va en venir, monsieur Garba. Monsieur Daouda Sako, à cette allure-là, est-ce qu'on peut dire que l'année scolaire est en danger?
L'année scolaire est en danger parce que avec la position retranchée de la synergie, l'année scolaire sera forcément en danger parce que cette menace sur les examens. Et je pense que, bon, jusqu'à preuve le contraire, les négociations vont aboutir sur une bonne entente des deux parties. Ça, c'est notre souhait. Dans le cas contraire, ce serait la pire des catastrophes. Que les enfants soient abandonnés à la porte des examens, je crois que c'est personne ne souhaite cela. Personne ne souhaite voir cela. Parce que vraiment, ce serait une catastrophe. Et aussi, ce que je voulais dire, certains disent que 78 c'est loin, mais moi je crois que ceux qui ont fait l'école, même les Moudous, sont nos élèves. Les Moudous sont nos élèves. Mais vous croyez que ceux qui vont sortir des mains de ceux qui les diplômés de l'école présentement, là, avec une école avec une instabilité permanente, mais qu'est-ce qu'ils auront appris? Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Qu'est-ce qu'ils vont réaliser? On parle toujours de baisse de niveau, de fondamental jusqu'au supérieur. Des étudiants qui ont des problèmes énormes pour faire une lettre. Et une fois, je suis allé à la BDM, on m'a dit, mais M. Sago, vous savez, il y a un professeur qui est venu, on lui dit de faire la demande pour avoir un chéquier, et il dit, ben, il faut lui donner un exemplaire.
Ce n'est pas possible. Non, mais moi, je ne sais pas. Et la qualité de l'enseignant est telle que l'enseignant est incontournable. La qualité de la formation de l'enseignant est incontournable pour une bonne école, pour des diplômes valables. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une école de semblant. L'école ne peut pas supporter le semblant. Et la prise de notes. Moi, je vous dis, hein, une fois mes étudiants m'ont posé la question, est-ce que c'est normal que l'enseignant prenne en otage les notes des élèves? J'ai dit non. Parce que dans la note, il y a une participation de l'élève. La copie appartient à l'élève. Il écrit ce qui sort de sa tête avec son bic. Donc l'élève aussi a une part. Je peux supporter un enseignant qui dit « je ne peux pas corriger, je ne corrige pas », mais bloquer la copie de l'élève avec sa note, je crois que vraiment il faudrait qu'il voit un peu ce aspect. Parce que là, ce serait quand même un peu trop de la part de mes collègues enseignants. De priver l'élève d'apprenant de sa note. Parce que ça, c'est extrême. Donc, la situation est telle que nous pensons que avant les examens, les deux parties pourraient s'entendre. Je le souhaite. Par ailleurs, une loi qui a été votée jusqu'en 2018 et qui, jusqu'à présent, pose problème au gouvernement. Le gouvernement qui l'a fait voter et qui l'a accepté a été incapable de l'appliquer pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il a été incapable d'appliquer une loi qui a été votée par l'Assemblée, une Assemblée normale. Mais ça n'interpelle pas les gens. Ça n'amène pas à réfléchir. Le gouvernement de la transition a tenté et a été bloqué aussi. Parce qu'il y a eu le soulèvement de l'INTM, qui est la centrale beaucoup plus importante. Mais ça n'amène pas à réfléchir. Et nous sommes assis comme ça à regarder l'avenir compromis de nos enfants et de l'État même. Alors c'est pourquoi j'ai dit une fois, et ça n'engage pas la Fédération des parents d'élèves. J'ai dit, mais si une loi trouve autant de problèmes dans son application par le gouvernement successif, nous n'avons pas une institution spécialisée pour voir les lois dans leur contenu, dans leur applicabilité, dans leur conformité. On n'a pas de structure au Mali pour ça. Ou alors les gouvernements, ils se font des textes pour se piéger, ou bien piéger ceux qui vont venir après. On peut aller dans ce sens-là. Quel type de gouvernance nous avons? Moi, j'ai dit, mais non. Si la réaction des enfants, des enseignants puisse amener à une meilleure gouvernance, vraiment je les félicite parce que tout est lié à ça.
Merci, quel type de gouvernance nous avons? Merci,
quel type
Sakho.
De cadre nous avons?
Pour le pédagogue Mourike Dambélé, la solution est dans la négociation. Il propose aussi au gouvernement de donner des primes aux enseignants au lieu des avantages de l'article 39. Il est joint au téléphone par Mamadou Samasekou. On l'écoute et on se retrouve après sur le plateau.
Ce n'est pas une bonne situation de dire on va faire l'examen sans les enseignants. Ce n'est pas une bonne chose de reporter non plus les examens l'année au bout du bout. Et donc, il ne faut plus reculer les dates. Il faut donc négocier avec les enseignants en leur proposant justement des alternatives pour leurs revendications. C'est la seule sortie de crise qui soit aujourd'hui envisageable dans l'intérêt général de l'école. J'avais demandé à l'État de faire un protocole de stabilisation de longue durée avec les enseignants. Je pense qu'il est possible de négocier avec les enseignants et de leur proposer une prime unifiée et harmonisée en lieu et place de ce qu'ils revendiquent. Parce qu'il faut harmoniser les salaires à l'échelle des diplômes et à l'échelle de tout le corps pour une grande stabilisation de la fonction publique. Les enseignants doivent accepter d'y aller.
Monsieur Ousmane Almoudou, porte-parole du mouvement des enseignants signataires du 15 octobre. Vous venez d'écouter les propos de Monsieur Mourike Dambélé, pédagogue. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, en fait, avant d'arriver aux propos de Mourike,
oui,
vous permettez quand même de dire deux choses sur
d'accord, allez-y.
Les propos de Monsieur Sakho.
Mm-hmm.
La loi n'a pas un problème d'applicabilité. Vraiment, il faut qu'on sorte de ça. La loi a été promulguée le 16 janvier et la loi donne une grille plafond de 1060 aux enseignants SSST appliquée le 1er janvier 2018. Donc, il n'y a pas un problème d'applicabilité de la loi. En 2019, il y a un mouvement sur le statut général. Les enseignants ont demandé, au regard de l'article 39, les régimes qui étaient là avaient refusé d'appliquer une loi de la République. Ceux qui sont venus après eux, ils l'ont appliqué. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne va pas donner des avantages aux enseignants parce que tel corps s'est levé, dit qu'il n'est pas d'accord. Et on dit que c'est la loi qui n'est pas applicable. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes en train d'appliquer l'accord d'Alger. Est-ce que tous les Maliens sont d'accord avec ça? Non, il faut qu'on sorte de ça. La loi de 2018 des enseignants n'a pas un problème d'applicabilité. C'est un problème de volonté politique et du fait que des gens ne veulent pas avoir les enseignants dans le bonheur. C'est seulement ça. Sinon, il n'y a pas un problème d'applicabilité. Donc, la loi est applicable depuis le 1er janvier 2018. La loi est en train d'être appliquée.
D'accord. Depuis le 1er janvier 2018. C'est le problème pour des enseignants et non de...
Non, ce n'est pas un problème de loi. C'est un problème des enseignants. Parce qu'on a mis dans l'esprit des gens que l'enseignant ne doit pas égaler les autres, à plus forte raison les dépasser. C'est ce qui est dans les subconscients des gens. Sinon, ce n'est pas un problème d'appliquer de la loi. Vraiment qu'on sorte de ça. Pour nous, aujourd'hui, la loi n'a aucun problème pour être appliquée. La deuxième chose, c'est que nos amis de l'AIEM, il faut qu'ils sortent de ça. Parce que nous, nous rappelons quand même l'année dernière, le gouvernement, lorsque nous étions dans le mouvement, on a des informations, on leur a dit de rester à l'écart du mouvement, parce que c'est un combat entre eux, entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation, ils sont mis de côté. Je pense qu'au-delà de ça, les étudiants du Mali sont appelés, c'est là qu'ils sont appelés à gérer le pays demain. En citoyen. Au-delà de toute considération, les lois de la République, tout citoyen doit demander l'application des lois de la République. Ça, c'est en dehors de toute autre considération. C'est un principe fondamental de la démocratie. Si on accepte que n'importe qui peut se lever et allègrement violer les lois de la République, personne ne sera en sécurité. Et ce que les anciens demandent aujourd'hui, ce n'est pas une revendication, c'est tout ça, une demande d'application de la loi de la République. Donc, que nos amis, nos camarades de l'AIEM comprennent que et au-delà du fait que c'est des avantages ou ça concerne les enseignants, c'est des principes de droit, c'est des principes de la loi que eux, qui sont appelés à être des dirigeants de demain, doivent cultiver déjà en eux le respect des textes de la République. Docteur Mourike Dambélé propose des primes et indemnités et que les enseignants... On ne peut pas aller à ça. En fait, je pense que peut-être la mesure à venir, on va poser ça sur la table. Parce qu'à RAT, on a compris que, en tout cas, nous, cette génération d'enseignants qui sont là, depuis que nous avons commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a eu sur nos salaires, on l'a.
De parole du mouvement des enseignants signataires du 15 octobre, M. Daouda Sako, membre de l'association des parents d'élèves, et Boubacar Garba, porte-parole de l'association des élèves et étudiants du
débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Libéry, Halo du Monde. Chien Libéry, Zika Foba.